Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Comment dompter une tomate sauvage? Comment nos ancêtres ont-ils domestiqué les plantes que nous mangeons aujourd'hui? Riz, blé, café, bananes, pommes, carottes, les aliments que nous avons dans notre assiette ont une tête bien différente de leurs ancêtres et de leurs cousins sauvages d'aujourd'hui. Mais alors, quelles sont les techniques de sélection? Peut-on modifier le génome directement des plantes? Sommes-nous condamnés à manger des tomates fades et sans goût, mais à la rondeur et la brillance photogénique? Élément de réponse dans cette émission. Pour explorer ensemble la domestication des fruits et des légumes, nous recevons en plateau le généticien Romain Berruyer. Bonjour Romain.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université d'Angers et chercheur à l'IRHS, l'Institut de Recherche en Horticulture et Semences, également à Angers, c'est bien
ça ? Tout à fait.
C'est bien ça. Avec moi pour animer cette émission et mener l'interview, Cristal. Salut Cristal.
Bonjour Sophie.
Nous entendrons également Aurore qui refait un point sur la sélection naturelle et artificielle des plantes et une chronique de Rémi qui parlera de la face cachée des semences agricoles produites par les multinationales. Ce sujet de la domestication des plantes est justement le thème d'une exposition au Muséum de Toulouse. Domestique-moi si tu peux, sur la domestication des plantes mais aussi des animaux. Cette exposition est ouverte jusqu'au 5 juillet 2026. N'hésitez pas à y faire un tour.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Alors on imagine souvent, on l'a dit, la domestication en lien avec les animaux, par exemple nos loups qui sont devenus peut-être nos chiens, ou l'éducation canine pour nos animaux de compagnie, et ça paraît un peu surprenant de pouvoir apprivoiser, par exemple, un plant de tomate. Alors Romain Berruyer, ça veut dire quoi, domestiquer des plantes? Est-ce que déjà ça a un lien avec l'agriculture?
Ah, complètement, puisque la domestication des plantes, c'est la même chose que l'invention de l'agriculture. En fait, on distingue deux types de domestication, et il y a ce qu'on va appeler la domestication primaire, la domestication des plantes de grande culture, du riz, du blé, etc. Et cette domestication s'est faite par des sociétés qui, tout en domestiquant ces plantes, inventaient l'agriculture et se sont inventées comme paysans.
Donc, domestication, agriculture, c'est très lié. Donc, c'est quoi? On choisit une espèce de plante qu'on aime bien et on va garder que cette espèce-là, plutôt que des cousines?
Oui, en fait, c'est pour moi la domestication des plantes, justement, de ces domestications primaires, de ces plantes de grande culture. On peut voir ça presque comme une coévolution entre des espèces végétales et des sociétés humaines. Des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans un environnement où il existe une ressource de nourriture, par exemple, qui va être du riz sauvage, vont progressivement devenir des cultures agraires qui cultivent du riz. Sur un certain territoire pour tout un ensemble de raisons, parfois presque indépendantes de leur volonté, et on ne peut pas séparer les deux. Après, vous avez d'autres plantes qui ont été domestiquées de façon plus explicite par des sociétés agraires, parce que la domestication des plantes, c'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Il y a des plantes qui sont domestiquées au XXIe siècle. Les premières plantes à avoir été domestiquées ont été domestiquées par des gens qui, en même temps, ont inventé un mode de vie qui va avec.
Donc, ils étaient, par exemple, dans une zone sauvage, ont vu une plante qui produisait un fruit, un légume, une céréale. Ils se sont dit, bon, ça, c'est intéressant, on va le mettre dans notre sac et on va le ramener au village et on va essayer de le multiplier.
Oui. Alors, essayer de multiplier, ça ne vient pas tout de suite. Vous pouvez avoir des pré-domestications. Moi, j'aime bien un exemple, alors qui n'est pas tout à fait contemporain, parce que c'est quand même des sociétés qui ont disparu, mais qui ont disparu récemment. Les aborigènes d'Australie n'étaient pas des agriculteurs, mais par exemple, construisez des barrages sur les fleuves et les, enfin surtout sur les rivières en Australie pour créer des zones humides dans lesquelles se développaient des plantes qui étaient ce qu'on appelle la châtaigne d'eau en particulier, qui étaient des plantes qu'ils consommaient. Et donc, ils ont modifié leur environnement pour favoriser ces plantes-là sans faire de l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils ne plantaient pas, ils ne sélectionnaient pas, ils créaient des environnements favorables à des plantes qui leur étaient favorables à eux. Après, moi, il y a un exemple que j'aime bien. C'est pas quelque chose que je peux vous démontrer par A plus B. C'est une histoire qu'on peut se raconter et qui est cohérente avec les observations. C'est l'invention de l'agriculture en Chine avec la domestication du riz.
On l'a gardé, la domestication D'accord. du riz, on va en parler, parce qu'effectivement, il y a une histoire un peu folle, en rapport avec l'Himalaya d'ailleurs, je crois.
Oui.
Mais il faut que nos auditeuristes restent un peu plus longtemps pour avoir la réponse.
Donc, une partie de votre travail consiste à étudier des gènes très particuliers des plantes. Comment vous y prenez au laboratoire pour écrire l'évolution des plantes ?
Alors, en fait, l'histoire ou des histoires qu'on peut raconter de domestication des plantes ne sont pas le résultat du travail d'une équipe dans un labo. Pour arriver à ça, on fait la synthèse de très nombreux travaux réalisés par de très nombreux chercheurs. Et on a une base qui permet de raconter ces histoires. C'est la diversité génétique des plantes, des populations en général, mais là on parle de plantes, donc c'est la diversité génétique des plantes, et caractériser cette diversité par différents outils mathématiques et statistiques, et voir comment elle se structure, par exemple, c'est quelque chose qui va permettre de raconter des choses sur l'histoire de ces plantes. En fait, l'ADN, c'est un texte, et c'est une mémoire. C'est une mémoire qui peut se transmettre sur des générations, sur des temps géologiques, sur littéralement des milliards d'années. Nous, on s'intéresse plutôt à des milliers ou à des dizaines de milliers d'années. Et ce texte se transmet de génération en génération avec des erreurs. Et en regardant les erreurs qui existent entre différentes copies du texte présentes chez différents individus, déjà on peut savoir quand est-ce que ces individus se sont séparés. Et parfois, selon la nature des erreurs, on peut déterminer pourquoi ces deux lignées se sont séparées. Et si ces deux lignées, ces deux groupes ont continué à échanger des individus ou pas au cours du temps. Et donc l'ADN et la diversité de l'ADN, ça ressemble un petit peu, travailler là-dessus, au travail que ferait un médiéviste en étudiant des manuscrits médiévaux et en regardant comment ils ont été recopiés depuis des sources originales et quelles erreurs ont été faites. Et ça permet de raconter comment ces manuscrits se sont déplacés, comment les textes originaux se sont déplacés, ont été préservés ou pas, ou ont été réinterprétés par différentes cultures.
Comment on fait pour remonter le temps ? C'est-à-dire, comment on fait pour savoir qu'il y a une caractéristique qui est apparue, mais elle n'était pas là avant ? Et du coup, comment on remonte génétiquement le temps à travers ce manuscrit d'ADN ?
Alors déjà, il y a une première chose, c'est que ce texte de l'ADN, il y a une partie qui veut dire des choses, c'est ce qu'on appelle les gènes, puis il y a une grande partie qui ne veut rien dire. Et on va comparer les deux, parce que la façon dont évoluent les deux n'est pas la même. Enfin, peut ne pas être la même. Et du coup, on peut savoir, pour de l'ADN codant, de l'ADN qui correspond à un gène, s'il a les mêmes variations que de l'ADN non codant, ça veut simplement dire que ce gène, il a joué son rôle au cours du temps, et puis voilà. Et il y a des choses qui ont un petit peu bougé au hasard, mais rien de particulier. Par contre, on peut d'autres fois voir que ce gène, eh bien, il a eu une histoire qui est différente de celle de l'ADN non codant, et ça veut dire que parmi les forces évolutives, eh bien, il y en a une qui est celle qu'on préfère, entre guillemets, qui est la sélection, qui a agi sur ce gène. Puisque pour de l'ADN qui n'est pas codant, bah comme il n'est pas codant, il n'a aucun effet sur l'organisme, il n'y a pas de sélection. Il y a une évolution, mais il n'y a pas de sélection. Et ça, c'est une façon de voir, par exemple, de dater l'apparition d'un nouvel allèle qui aurait été très très avantageux et qui aurait pris la place d'un autre allèle qui existait précédemment. C'est une façon de dater l'apparition de ces nouveaux allèles. C'est une façon d'ailleurs de dater, parfois de façon indirecte, hein, on essaye d'avoir des données archéologiques pour le confirmer, mais de dater des événements de domestication. Parce que lors de ces événements de domestication, en fait, les humains ont sélectionné des allèles particuliers qui donnent aux plantes des caractéristiques qui, dans la nature, sont catastrophiques pour l'individu, mais qui, dans un environnement agraire, sont au contraire extrêmement intéressantes.
Vous avez parlé de sélection. Aurore, qui est bénévole au Labo des Savoirs, c'est justement la question qu'elle s'est posée, c'est de la sélection naturelle et artificielle. Alors, depuis combien de temps, nous, humains, on sélectionne des plantes ? Élément de réponse.
La sélection artificielle, c'est quoi ? Eh bien, Sophie, on a tous entendu parler de la sélection naturelle, qui a été décrite par Charles Darwin dans son livre « L'origine des espèces » en 1859. Ce qui est moins connu, c'est que Charles Darwin a aussi inventé le terme « sélection artificielle ». C'est le processus par lequel les humains utilisent l'élevage pour les animaux et la sélection chez les végétaux pour développer des caractéristiques particulières, en choisissant quel mâle et femelle se reproduiront et auront une descendance ensemble. Et c'est d'ailleurs le premier chapitre du livre de Darwin qui s'appelle « De la variation des espèces à l'état domestique », où il disserte sur la domestication d'espèces végétales ou animales comme les pigeons, les bovins, les chats et les chiens. Il remarque que de nombreux animaux et plantes domestiques ont des caractéristiques qui ont été développées volontairement en reproduisant les individus avec des caractéristiques souhaitables et en décourageant ceux avec des caractéristiques qui nous arrangent le moins. Ce qui est intéressant avec ce type de sélection artificielle, c'est qu'elle permet d'obtenir des changements au cours du temps chez les espèces. Comme la sélection naturelle, me direz-vous ? Eh ben non, parce que pour cette dernière, l'homme n'a rien à voir dans l'histoire.
Donc Darwin avait déjà compris les deux types de sélection. C'est intéressant qu'on ait retenu que la sélection naturelle et qu'on ait un peu oublié l'autre.
Et pourtant, Charles Darwin a utilisé ce terme plusieurs fois dans son ouvrage. Et j'ai envie de vous lire un de ses passages. Aussi lent que puisse être le processus de sélection, si l'homme faible peut accomplir beaucoup grâce à ses pouvoirs de sélection artificielle, je ne vois aucune limite à l'ampleur des changements, à la beauté et à la complexité infinie des co-adaptations entre tous les êtres organiques, les uns avec les autres et avec leurs conditions physiques de vie, qui peuvent être effectuées au cours d'un long processus par le pouvoir de la sélection de la nature. Fin de la citation. Alors, à l'époque de Darwin et de son célèbre ouvrage, le processus de l'hérédité était encore très mal compris. Même si les travaux du moine et botaniste Gregor Mendel sur les pois de senteur vont poser les bases de la génétique moderne autour des années 1860. Darwin, lui, il a écrit un second livre beaucoup moins connu en 1868, soit 9 ans après l'origine des espèces. Et ce second livre s'appelle « La variation des animaux et des plantes sous la domestication ». Il tente de décrire un processus de l'hérédité. Pour lui, les différences observées entre les individus d'une même espèce proviennent de leur exposition à des environnements différents. Une hypothèse qui a été remise en question depuis.
On a l'impression que l'humain, avec un petit peu de réflexion, peut réussir à créer des espèces animales ou végétales absolument comme il veut. C'est vrai ça ?
Eh bien, c'est plus compliqué que ça. La sélection artificielle peut aussi avoir des effets involontaires ou imprévus, souhaitables ou non. Selon une étude de 2009 publiée par des chercheurs de l'université de New York et de Londres, dans certaines céréales, l'augmentation de la taille des graines pourrait résulter de certaines pratiques de labour plutôt que d'une sélection intentionnelle des graines les plus grosses. Et de nombreuses études se sont intéressées aussi aux origines de l'agriculture et ont montré que la sélection des végétaux est pratiquée depuis environ 12 000 ans. Elle a commencé avec la domestication de plantes sauvages pour obtenir des variétés végétales plus uniformes et prévisibles utilisable en agriculture. À mesure que les cultures s'améliorent, les humains ont pu passer graduellement d'un mode de vie uniquement chasseur-cueilleur à un mélange de pratiques de chasse-cueillette et d'agriculture. Ces premières plantes cultivées ont permis aux peuples qui pratiquaient cette agriculture naissante d'avoir une alimentation plus variée. Attention d'ailleurs au mot agriculture qui renvoie souvent l'image d'un champ cultivé de manière uniforme. En réalité, ça peut prendre des formes plus discrètes. Par exemple, quand les Européens ont colonisé les Amériques, ils ont cru découvrir une nature vierge, qu'ils ont décrite comme abondante, presque paradisiaque. En réalité, cette abondance était le fruit de siècles de gestion écologique par les peuples autochtones, qui pratiquaient eux aussi de l'agriculture, sous une forme un peu différente. Les colons européens, attirés par cette image de paradis naturel, ont ainsi pu découvrir des forêts jardinées, entre guillemets, des vergers naturels, des sols riches et fertiles, mais qui reflète en réalité un aménagement ancien par les peuples autochtones.
Merci Aurore pour cette chronique. Alors retour à l'interview avec vous, Romain Verrouillé. Et justement, si on se penche un petit peu sur des exemples de domestication, on a parlé déjà un petit peu du riz, vous allez nous donner la réponse. Comment on est passé d'un riz sauvage à un riz domestiqué? Et d'ailleurs, est-ce qu'il en existe qu'un seul?
Alors des riz domestiqués, il en existe plusieurs. Ça dépend à quel niveau on se place. On peut aller de 2 à 250 000. Je vais raconter une première histoire. Il y avait un riz sauvage qu'on appelle Oryza rufipogon, qui existe toujours aujourd'hui, qui a une population qui s'étend dans tout le sud-est asiatique. Ça inclut en Chine le bassin du fleuve Bleu, et puis ça inclut la plaine gangétique, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, ça va jusqu'en Papouasie. Et cette plante, elle a différents variants, dont des variants annuels qui produisent des graines tous les ans. Et parmi ces variants annuels, il y en avait qui étaient au nord de l'Himalaya et d'autres qui étaient au sud. Au sud de l'Himalaya, les variants annuels existent parce qu'ils survivent à la saison sèche. Hein, c'est, on est dans l'Inde, dans le pays des moussons. Ils survivent à la saison sèche sous forme de graines et ils poussent quand il pleut. Et au nord, ils survivent à la saison froide sous forme de graines et ils poussent quand il fait chaud. Et au nord, on est dans des climats tempérés, on est en Chine. Et les climats tempérés en Chine sont différents de chez nous, mais on peut les comparer. Et en particulier sur l'histoire longue, dans ces zones-là, il y a eu des glaciations, comme ici. Et pendant ces glaciations, comme ici, les plantes ont migré vers le sud, vers des zones refuges étroites. Et dans le cas du riz, c'est le nord du Vietnam, cette zone étroite. Et ensuite, on reconquit ce territoire dont le climat redevenait favorable. Et cet événement a eu lieu plusieurs fois, parce qu'il y a eu plusieurs glaciations. Et donc, à la fin du Dryas récent, donc du dernier petit moment glaciaire, eh bien, il y a eu de nouveau une reconquête par des plantes qui avait une diversité très faible. Parce qu'en fait, ces événements, quand la plante elle est chassée d'un endroit et qu'on se retrouve avec des petites populations dans l'espace étroit, la diversité baisse. Et puis quand une plante qui était dans un petit espace étroit se met à partir à la conquête d'un territoire nouveau, il y a un individu qui, par hasard, va aller plus au nord et va avoir une descendance importante parce qu'il n'aura pas de concurrence. Et puis dans cette descendance, par hasard, il y a une graine qui va aller encore plus au nord, etc. etc. Et donc à chaque fois, eh bien, il y a par hasard des allèles qui vont se transmettre et d'autres non. Ce qui fait qu'après tous ces épisodes glaciaires, le riz qui poussait dans le bassin du fleuve Bleu avait une diversité relativement faible. Et on le sait parce qu'aujourd'hui, il existe encore et il a une diversité qui est faible comparée aux autres riz sauvages annuels qui sont dans l'Inde, dans la zone du Gange. Une diversité faible, ça veut dire une diversité faible de comportement de la plante. Par exemple, des graines qui vont germer un peu toutes en même temps, des plantes qui vont fleurir un peu toutes en même temps et qui vont produire des semences un peu toutes en même temps. Et donc, on peut imaginer des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans cet environnement-là où vous avez une plante qui, à un moment donné, produit une grande quantité de nourriture qui peut se conserver et cette nourriture est produite pendant un temps court. Donc, on peut imaginer qu'on va récolter ça puis qu'on va essayer de le stocker d'une façon ou d'une autre. Seulement, à partir du moment où on le stocke, on ne peut plus bouger. Parce qu'un silo, ça pèse lourd, on ne se promène pas avec un silo de grains. Et à partir de ce moment-là, si on ne bouge plus, on a très très envie de pouvoir de nouveau récupérer l'année suivante la nouvelle récolte, parce que sinon on est vraiment coincé. Et donc ça va favoriser tout un ensemble de choses, des gens qui vont perdre leur mobilité, qui vont devenir sédentaires, et puis des gens qui vont commencer à acquérir des notions de propriété. Pas forcément de la propriété privée, ça peut être de la propriété socialisée à l'échelle d'un groupe, d'un village, d'une famille. Et à partir de là, on commence à rentrer dans un cycle où si tel morceau de terrain vous appartient et produit du riz, on a un intérêt à ce que ça en produise le plus possible. On peut imaginer qu'à partir de là, on parte dans des démarches de domestication et d'agriculture.
Alors si je résume cette histoire qui est absolument passionnante, il y a des riz au nord de l'Himalaya qui subissent les différents effets de glaciation, du coup perdent, se retrouvent reclus dans des toutes petites zones pendant que le reste est couvert de glace. Donc ces survivants-là ont une diversité faible. Donc quand ils vont à la reconquête de cette zone, une fois la glace partie, ils ont un comportement qui est à peu près semblable. Les humains voient ce comportement, se disent « Allez, nous, on va le garder pour nous parce que c'est quand même intéressant. » Et ça forme des sociétés humaines.
Oui.
C'est génial.
C'est-à-dire que le riz a créé l'agriculture au moins autant que les paysans ont créé quelque chose qui s'appelle le riz cultivé. Ces plantes-là, là on parle du riz, on pourrait parler du blé, on pourrait parler du maïs, on pourrait parler de la pomme de terre. Moi, j'aime bien les comparer avec Notre-Dame de Paris.
Wow.
Parce qu'en fait, ces plantes, on peut avoir l'image de quelque chose de naturel. Et oui, somme toute, on a des feuilles vertes, on a des fleurs, on a des racines. Tout cela me semble tout à fait naturel. Et malgré tout, en fait, ces plantes-là ne peuvent pas exister dans la nature. Et quand on regarde leur génome, ce génome est une construction dans laquelle on a assemblé des allèles mutants qui peuvent apparaître dans la nature, mais quand ils apparaissent dans la nature, ils sont très vite éliminés. Et donc, certains individus dans la nature peuvent porter une mutation, mais la plante domestique qui porte toutes les mutations dans son génome, elle ne peut pas exister dans la nature. Elle est un assemblage artificiel d'objets naturels, de même que Notre-Dame de Paris est construite avec des pierres naturelles, que sa charpente est faite de bois naturel et que son toit est couvert d'une lame de plomb naturelle. Et que les cloches, etc., etc. toute construction part d'outils, d'objets naturels. À la limite, même un produit chimique de synthèse, les atomes, on ne les a pas fabriqués. Hein. Voilà, ils sont naturels. Évidemment, là, on est sur quelque chose de moins extrême qu'un produit chimique, mais une espèce cultivée, c'est une construction par une société de quelque chose d'artificiel à partir d'éléments naturels, comme une cathédrale.
Donc la plante, elle est composée de gènes. Et est-ce que, à partir des gènes, et notamment des gènes présents dans sa semence, on peut prévoir son avenir, en fait, dans son ADN? Est-ce qu'on peut prévoir la forme qu'aura la plante en connaissant son manuscrit génétique?
Oui et non. Oui, avec des limites. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a des outils de plus en plus performants, mais on n'est pas capable de partir d'un génome et de dire, étant donné que la séquence elle est comme ça, ça va faire un être vivant qui est comme ça et comme ça. Ça, on ne sait pas faire. Dans le cas des humains, on sait prédire pas mal de choses. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de données sur un nombre d'individus très grand. Chaque individu est très précieux. Une vie humaine, c'est très précieux. Et un humain, c'est un génome unique. Donc voilà. Et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Et à partir de ces données-là, on peut éventuellement prédire qu'une personne qui porte tel ou tel allèle a plus ou moins de chances d'avoir telle ou telle pathologie ou telle caractéristique. Et encore, même ça, on ne maîtrise pas encore. Hein. On commence à avoir des idées, mais voilà. Je suis le généticien, mais je me sens obligé de dire qu'un être vivant, c'est un génotype qui s'exprime dans un environnement. Et que l'environnement est au moins aussi important que le génotype pour le développement de l'être vivant. Si l'être vivant est une plante, il y a un côté un peu plus mécanique qui fait que, bon, en fonction du génotype et de l'environnement physico-chimique, disons, on peut espérer prédire quelque chose, mais même là, je ne suis pas sûr de mon coup. Évidemment, dès qu'on sort de là, dès qu'on prend quelque chose, quand on prend un être humain, pourquoi il a eu un cancer? Parce qu'il a des prédispositions, parce qu'il fume, parce que c'est pollué, parce qu'il n'a pas de chance, parce qu'il y a des UV, parce que je ne sais pas, moi.
Donc ça veut dire qu'en connaissant l'ADN, en fait, le livre de l'ADN de la plante, on ne pourra pas dire qu'elle aura des feuilles d'une certaine forme ou des fleurs d'une certaine couleur ou des fruits d'une certaine composition. Oui.
Alors,
on ne peut pas le prédire, ça.
On ne peut pas prendre un génome de plante au hasard et dire ça va faire une plante pérenne avec des feuilles, je ne sais pas quoi, caducifoliées, avec des fleurs roses. Non, ça, on ne peut pas. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre un génotype particulier de riz. Je reprends l'exemple du riz, mais disons d'une plante qu'on connaît bien. Et le riz en fait partie, avec le blé, avec le maïs. Et à partir de là, il y a tout un ensemble de gènes où on sait ce pourquoi ces gènes codent, et on sait qu'il y a des allèles, et on sait à quoi correspondent ces allèles. Et donc, si on a toutes ces informations-là, on peut prédire ce qui va se passer. Après, est-ce que ça vaut le coup de le faire? On peut se contenter de semer la graine et de regarder ce qui se passe.
Pause musicale avec Sack O'Rice de Tokayo. En deuxième partie, nous explorerons les meilleurs critères de sélection des fruits et légumes. Prenez des notes pour vos tomates de l'été prochain.
Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
C'était Saccharize de Tokayo. Et nous sommes de retour en plateau avec Romain Berruyer, enseignant à l'université d'Angers et chercheur à l'IRHS. Aujourd'hui en France, les fruits et les légumes de nos supermarchés ont des caractéristiques bien définies, donc ils sont bien ronds, bien gros, bien rouges, bien verts. Pour vous, quels sont les critères qu'on cherche à sélectionner dans une plante ?
Alors la question générale, ça va être très 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 dur d'y répondre. Les gens qui ont domestiqué les plantes avant les supermarchés, il y a quelques milliers d'années, le premier critère, c'était manger. Voilà, donc il fallait que ça produise de la nourriture. Il fallait que ça la produise le plus vite possible, le plus possible, et de la façon la plus facile à ramasser possible. Et ensuite, une fois que ça c'est assuré, et ça c'est l'objet d'autres plantes, il faut que ça produise une nourriture intéressante. Il faut que ça produise du goût, de la couleur, de la texture, des choses comme ça. C'est le premier luxe, c'est les légumes. Voilà, quand on a le... Pourquoi est-ce qu'on mange des carottes ? C'est pas parce qu'on a faim. Quand on a faim, on mange des patates. Si on mange des carottes, c'est parce qu'on en a marre de manger des patates. Les carottes, c'est pour nous, c'est basique. Mais en fait, les carottes, c'est plus dur à cultiver que des pommes de terre. Ça produit moins que des pommes de terre. Et ce que ça produit, c'est moins nourrissant que de la pomme de terre. Donc pourquoi est-ce qu'on fait pousser des carottes ? On fait pousser des carottes parce que ça n'a pas la même couleur que la pomme de terre, ça n'a pas le même goût que la pomme de terre, etc. etc. Et en particulier, pour, mettons, un paysan français quelque part au 19e siècle, donc avant la chaîne du froid, c'est un truc qui est orange, qui est sucré, et qu'on peut manger en plein hiver. Et il n'y a pas tant de plantes que ça qui permettent ça, dans un monde pas si ancien que ça, où il n'y a pas de chaîne du froid, et où les transports sont longs et pénibles.
Je trouve ça surprenant que vous n'ayez pas parlé de résistance aux maladies, vous qui êtes un spécialiste...
Alors, en fait, la sélection pour la résistance aux maladies, c'est quelque chose qui a une histoire un petit peu compliquée. Il y a un passé ancien où il y a eu une sélection probablement pour la résistance aux maladies, mais qui était involontaire, parce qu'en fait, c'est très difficile dans la pratique de sélectionner pour la résistance aux maladies. Simplement, dans un environnement ancien où, en gros, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de produits phytosanitaires, les plantes qui sont malades, elles crèvent, et puis voilà. Et donc, à partir de là, il y a eu une certaine sélection pour de la résistance aux maladies, qui fait qu'on trouve dans les variétés traditionnelles des résistances aux maladies, à un certain niveau, qui n'est pas toujours satisfaisant.
Et ces agriculteurs, du coup, à l'époque, quand ils avaient des récoltes où il y avait des... moi, je pense par exemple notamment au mildiou sur la pomme de terre, qu'on peut voir quand même qu'il y a des petites taches dessus, etc. Est-ce qu'ils évitaient de les récolter et ça faisait une sorte de sélection au final ?
Alors, sur le mildiou, c'est compliqué. Le point de départ, c'est que la pomme de terre a été introduite en Europe à partir de populations andines qui vivaient avec cet agent pathogène et où il y avait des plantes qui étaient malades, mais pas beaucoup. Et cet agent pathogène, la pomme de terre, elle est particulière parce que on la multiplie pas par les graines, on la multiplie par les tubercules. Donc on a des semences qui ne sont pas sèches, qui sont humides, et qui sont sensibles aux maladies. Et qui en particulier sont sensibles au mildiou. Et donc un tubercule de pomme de terre infecté par du mildiou, au bout d'un certain temps, ça devient une espèce de bouillie ignoble qui ne donnera plus jamais de pomme de terre. Et lorsque les pommes de terre sont arrivées en Europe, ça s'est fait au bon vieux temps de la marine à voile, et donc les bateaux mettaient longtemps pour traverser l'Atlantique. Et donc les tubercules qui arrivaient, ils étaient sains, non pas parce qu'il y avait des super mesures de quarantaine, mais parce que les tubercules malades n'arrivaient pas à traverser l'Atlantique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, on a inventé un truc merveilleux qui s'appelle la marine à vapeur, qui fait que les bateaux se sont mis à traverser l'Atlantique beaucoup plus vite. Et à partir de là, il y a des tubercules malades qui sont arrivés en Europe. Seulement, comme en Europe, le mildiou n'existait pas, et ben, les variétés n'avaient pas été sélectionnées pour résister à cette maladie. Et donc, il y a eu des épidémies de mildiou ravageuses. On a tous, je pense, l'image de la famine d'Irlande, de la pomme de terre, où le pays, le tiers de la population a disparu, et un autre tiers de la population a foutu le camp.
C'est dingue de se dire que c'est des patates qui ont voyagé trop vite, oui, à cause du progrès, oui, du bateau à vapeur. Oui. Et que ça a décimé des centaines de milliers de personnes.
On a parlé des critères en fait, qu'on cherche à sélectionner dans une plante. Quelles sont les techniques qui permettent d'obtenir de tels résultats ? Est-ce que c'est ça les OGM ?
Alors, première réponse, non. Voilà, si vous voulez, on parle d'OGM, mais sans OGM, on peut tout à fait produire des variétés résistantes. Alors, il y a une première technique, une première famille de techniques qui va correspondre en fait à des types de résistances, parce que les résistances ne sont pas toutes les mêmes dans leur mécanique, dans leur fonctionnement et dans leur déterminisme génétique. Vous avez des résistances qu'on va appeler qualitatives, c'est-à-dire que d'un point de vue qualitatif, c'est malade ou pas. Quand c'est pas malade, on est content, bien sûr. Et ces résistances ont un déterminisme génétique simple, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gène avec un allèle sensible et un allèle résistant. Donc tout est facile, il suffit de mettre l'allèle résistant dans la nouvelle variété. Et pour ça, il y a une série de techniques qu'on appelle des techniques de back-cross, c'est-à-dire qu'on va croiser une plante qui a un intérêt agronomique avec une plante résistante. Et ensuite, à chaque génération, en fait, on va croiser on va sélectionner les individus résistants, donc qui portent l'allèle résistant, et on va de nouveau les croiser avec la plante qui était intéressante d'un point de vue agronomique. Et donc, comme ça, on obtient quelque chose qui est comme une espèce d'OGM naturel, c'est-à-dire qu'on a une plante qui, au moins en théorie, a tous les allèles qui lui donnent toutes ces caractéristiques agronomiques super intéressantes, et qui, en plus, a l'allèle résistant pour le gène d'intérêt. Et donc, comme ça, on peut, avec des normes guillemets, facilement, parce qu'on c'est un travail qui prend plusieurs années, produire ce genre de génotype intéressant. Alors, il y a une limite. La limite, c'est qu'en fait, quand vous avez une résistance qui est due à qu'un seul gène, c'est comme quand vous traitez des bactéries avec un seul antibiotique ou des champignons pathogènes avec un seul produit phytosanitaire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des contournements et il se met à y avoir des agents pathogènes qui deviennent pathogènes sur ces plantes soi-disant résistantes. Donc, ce qu'on appelle des contournements de résistance. Et donc, ça fait que ces solutions-là ne sont pas éternelles. Elles existent, mais elles ne sont pas éternelles. L'autre grande famille de méthodes, c'est de constater que il y a des plantes qui résistent plus et des plantes qui résistent moins, mais que c'est quantitatif. Et donc là, il existe plusieurs méthodes. Alors, on peut parler de sélection massale, on peut parler de sélection généalogique. L'idée en général, c'est que simplement à chaque génération, on va avoir des plantes qui résistent plus et des plantes qui résistent moins, et on va garder les plantes qui résistent plus, comme le faisaient les paysans depuis qu'on a domestiqué les plantes. C'est que la plante qui est pas malade, on la garde, et la plante qui est malade, on la jette. La différence, quand on fait de l'amélioration, c'est que, au départ, on va créer artificiellement de la diversité en prenant différentes variétés, en les faisant se croiser entre elles, etc., etc. Et c'est dans cette population-là qu'on va agir. Et à l'arrivée, on espère obtenir une variété qu'on aura sélectionnée comme ça, sur plein de critères différents, dont la résistance, et qui sera plus résistante. Alors, ce type de résistance-là est généralement plus durable. C'est-à-dire qu'une fois que la plante a acquis un certain niveau de résistance, elle va le conserver. Et en plus, l'autre avantage, c'est comme il y a plein de gènes, en fait. Il y a énormément de gènes qui ont des allèles, pour chaque gène, il y a plusieurs allèles, dont certains donnent un petit peu plus de résistance que d'autres. On peut combiner comme ça des allèles, avoir des combinaisons de plus en plus intéressantes, et avoir des niveaux de résistance de plus en plus intéressants. Si je reprends l'exemple du mildiou de la pomme de terre, vous connaissez peut-être une variété, ou vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, qui s'appelle Nicolas, une variété de pomme de terre, qui a été obtenue dans les années 60. Et à l'époque, elle était considérée comme étant une variété avec une forte résistance au mildiou de la pomme de terre. Et aujourd'hui, Nicolas, on peut trouver cette variété dans les catalogues, et elle est décrite comme ayant un niveau de résistance intermédiaire, moyen. Et vous allez me dire, du coup, elle a perdu de la résistance. Non, pas du tout. C'est qu'il y a continué à y avoir du progrès génétique, et donc aujourd'hui, il y a des variétés qui sont plus résistantes que Nicolas. Mais cette variété Nicolas a gardé un niveau de résistance qui est ce qu'il est, qui n'empêche pas la plante d'être malade, mais qui fait que la maladie arrive moins vite, l'épidémie se déclenche plus tard, et en fonction de l'humidité ou pas, quand on est producteur, on n'a pas besoin de traiter, ou alors on peut traiter moins, plus tard, etc.
Faisons une pause dans cette émission sur la domestication des plantes avec Café y Banana de Xaman X. Juste après, Rémi, bénévole au Labo des Savoirs, s'attaque aux multinationales qui vendent des semences stériles.
Yeah. por la banana, por la noche y la mañana, que sin ella no me puedo levantar. Que si no la tengo en casa, tengo que pedir al vecino, entonces sí que la vamos a liar. Ya que pongo la banana, también tomo por la noche para salir de casa muy bien preparada. Si tú quieres un poquito, yo te invito a que la pruebes, ya verás que fino te vas a quedar.
La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
C'était Café et Banana de Xaman X. Nous sommes de retour au Labo des Savoirs avec toi Rémi. Pour ta première chronique, tu t'es penché sur le sujet des semences agricoles. Alors ici, pas question de la petite enveloppe garnie de graines qu'on garde pendant l'hiver au chaud pour semer nos tomates au printemps. Là, c'est autre chose, c'est bien ça ?
Et oui Sophie, notre sujet ici est bien différent. Pour commencer, petite question à vous les auditrices, les auditeurs. Avez-vous déjà entendu le nom de l'entreprise Corteva ? Ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, c'est la deuxième plus grande multinationale productrice de semences agricoles au monde, derrière Bayer et devant Syngenta. Un mastodonte, né de la fusion des groupes Dow Chemical et DuPont en 2019. Quelque chose vous interpelle peut-être déjà. Oui, le cœur de métier de Dow Chemical, comme son nom l'indique, c'est la chimie. Et même chose pour DuPont. Pas grand-chose à voir, a priori, entre la graine à l'origine de la tomate dans votre sympathique salade César et la société inventrice du Teflon et spécialiste des matériaux plastiques et des polymères.
Alors effectivement, pour l'instant, difficile d'y voir un rapport. Mais alors, quelles sont les activités de Corteva ?
Eh bien, Sophie, quand on se balade sur le site de Corteva, on se rend vite compte de cette ascendance un brin chimique. Alors, on peut acheter des semences, bien sûr, mais aussi et surtout des herbicides, des fongicides, des insecticides, des traitements de semences, des stabilisateurs d'azote, etc. Même chose sur le site du numéro 1 mondial, Bayer, né de la fusion, encore une fois, de Bayer et Monsanto.
Donc, quelques grands acteurs de la chimie et de la pétrochimie se partagent une bonne partie de quoi ? Du contenu de notre assiette ?
Eh bien, exactement. Selon le site Mordor Intelligence, très joli nom hein, d'ailleurs, qui compile les rapports sur les grands secteurs industriels, le marché des semences agricoles pèse aujourd'hui 77 milliards de dollars. Et il devrait même atteindre les 100 milliards d'ici 2030. Si je reprends mon exemple de Corteva, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars en 2024 pour la vente de semences et de 7,5 milliards pour la vente de produits phytosanitaires. Avant de vendre des pesticides, il est donc plus rentable de vendre les graines des plantes que l'on compte arroser avec. Une croissance qui attire les appétits financiers des investisseurs. Vanguard Fiduciary Trust détient ainsi 11% des parts du groupe, suivi du grand fonds d'investissement BlackRock avec 6%.
Mais alors concrètement, quelles sont les tendances de ce marché et pourquoi est-ce que nous, on doit s'en occuper ?
Eh bien, parce que les multinationales semencières comme Bayer, Corteva ou Syngenta exercent un contrôle de plus en plus resserré sur le contenu de notre assiette. Comment ? Eh bien, par trois leviers, principalement. Premier levier, ces grands groupes déposent des brevets sur les semences, là où, avant, du temps de nos grands-parents, elles s'échangeaient librement entre paysans pour croiser les souches les plus intéressantes entre elles. C'était donnant-donnant. Maintenant, on dépose des brevets. Ensuite, deuxième levier, elles poussent la production d'hybrides stériles. C'est pratique quand on est semencier. On vend une graine qui donnera un fruit stérile. Et donc, on s'assure une clientèle d'agriculteurs captifs, fidélisés de force, obligés d'en racheter l'année suivante s'ils veulent avoir une récolte. Enfin, on développe des packs clés en main. On ne vend plus seulement la semence toute seule, mais la semence avec son engrais spécifique, avec ses pesticides spécifiques, son logiciel de suivi de culture spécifique, etc. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle la servicisation de l'agriculture. Ces différents facteurs combinés viennent également standardiser et donc appauvrir le contenu de nos assiettes.
Et est-ce qu'on a des études qui viennent chiffrer cette perte de diversité de nos assiettes ?
Il faut commencer par quelque chose, un rappel. Si on remet un peu l'église ou la mosquée, le temple, la synagogue au milieu du village, il faut commencer par rappeler ceci. La plus grande perte de diversité de notre régime alimentaire, ça remonte à la domestication. Et donc assez sur plusieurs milliers d'espèces qui sont comestibles par l'homme, à peu près 30 000 dans la nature, nous n'en cultivons désormais plus que 250, selon la Food and Agriculture Organization, l'organe des Nations Unies qui fait autorité en la matière. Je l'appellerai ensuite la FAO. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport de la FAO de 2019, « Les plantes qui nourrissent le monde ». En fait, désormais, une douzaine d'espèces cultivées seulement procurent 80% de l'alimentation végétale mondiale. 80%. À eux seuls, les céréales, qui sont le riz, le blé et le maïs, couvrent la moitié des besoins mondiaux. Et dans le détail, puisque vous connaissez Sophie, j'aime les détails, notre alimentation repose essentiellement sur, tenez-vous bien, 26 céréales, 17 racines et tubercules, 26 pousses, 44 légumes, 69 fruits, 14 noix, 28 huiles, 24 herbes et épices, 3 sucres. Pour une espèce omnivore comme la nôtre, c'est en fait relativement peu. Et il y a un consensus scientifique pour dire que la tendance est à la baisse, à la fois en diversité variétale, c'est-à-dire en nombre de variétés, en diversité génétique et en diversité phénotypique. Phénotypique, ça veut dire que les caractéristiques physiques des espèces se ressemblent de plus en plus. Des tomates de plus en plus rondes, de plus en plus lisses, etc.
J'aime beaucoup effectivement cette liste très détaillée du nombre de céréales, racines, tubercules, pousses. Mais alors, au niveau citoyen, qu'est-ce que nous, on peut faire ?
Alors, ça va peut-être sembler des évidences pour certains, certaines, mais au niveau citoyen, le premier réflexe, c'est de privilégier l'agriculture biologique. Ou, puisque j'entends venir déjà mes parents, le très raisonné quand on connaît vraiment les pratiques de son producteur local qu'on achète au marché depuis des années, certes. En fait, le bio va avoir tendance à cultiver des variétés anciennes, des essences plus rustiques et donc généralement plus robustes, qui résistent mieux à un faible apport en intrants. Le local et le circuit court peuvent aussi être de bonnes options. Mais attention aux fausses bonnes idées. Être cultivé localement ne veut absolument pas dire que la variété cultivée va avoir un intérêt particulier d'un point de vue nutritionnel ou biodiversité ou qu'elle est gage de qualité. Donc pour lier le bio et le local, on peut par exemple, et je terminerai là-dessus, s'inscrire à une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En s'inscrivant, on s'inscrit et on s'engage à prendre à l'année des paniers de fruits et de légumes à un réseau de producteurs, productrices locaux et bio. On soutient ainsi l'économie locale et on a accès à des bonnes variétés de légumes. Et pour passer l'hiver tranquille avec des bons légumes, ça n'a pas de prix.
Et merci Rémi pour ce petit tour d'horizon, pas forcément réjouissant, du monde des semences agricoles et de l'agriculture. Et merci à toi pour cette première chronique au Labo des Savoirs. Alors je reviens un petit peu en arrière avec vous, Romain Berruyer, avec cette question. Parfois, quand je vais au supermarché et que je tombe sur des bananes, je me dis c'est pas possible qu'il existe des versions comme ça dans la vie sauvage. Et Internet m'a d'ailleurs appris, parce que c'est une image qui a beaucoup circulé, que les bananes sauvages ne ressemblent pas du tout à ça, qu'elles ont d'ailleurs des gros pépins, alors qu'il n'y a pas beaucoup de pépins dans une banane classique de supermarché. Est-ce que cette sélection, c'est quoi? Ça stérilise les plantes? C'est des pépins qui sont tout petits? Comment ça s'est fait, ce processus? Est-ce que c'est pas nocif pour la plante?
Alors, déjà, on va commencer avec la banane du supermarché. La banane du supermarché n'a pas grand-chose à voir avec la banane telle qu'elle a été domestiquée il y a longtemps. La banane du supermarché, celle qu'on connaît tous, ça correspond à une variété de banane qui s'appelle la grande naine, qui fait partie d'un groupe variétal qu'on appelle les variétés Cavendish, qui sont en fait très très proches les unes des autres. C'est un clone qui a une diversité extrêmement faible. Et ça pose énormément de problèmes, parce que si vous n'avez pas de diversité, et ben lorsque, enfin, quand je parle de maladie, je suis désolé, je parlais de maladie à nouveau, lorsqu'une plante est sensible à une maladie, elle n'a pas de système immunitaire comme nous, elle ne peut pas s'adapter. Donc ça veut dire que si vous avez un agent pathogène qui est capable de rendre une banane, enfin un plant de bananier malade, ben comme ils sont tous exactement pareils, ils vont tous devenir malades. Et ça fait que les productions de bananes posent des gros problèmes de type phytosanitaire. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous quand même. Si vous achetez des carottes de type nantaise, toutes banales dans leur sachet en plastique, et ben en fait, là, il y a beaucoup de diversité. Elles ont toutes le même aspect, mais il y a en permanence des nouvelles variétés qui sortent et qui sont assez différentes les unes des autres. Et en particulier, il y a beaucoup de sélection pour la résistance à différentes maladies. Donc, je ne vais pas vous dire qu'elles ne sont pas traitées, hein, c'est pas vrai. Il y a des traitements qui sont employés. Mais en termes de nombre et de dangerosité, on n'est pas sur le même ordre de grandeur que pour la banane. Et en termes de diversité génétique, sur la carotte, je ne vais pas vous dire que c'est fabuleux, mais il y a une diversité des carottes banales en sachet de supermarché, alors que la banane de base a une diversité nulle.
Mais c'est passionnant de se dire que la banane comme la carotte, effectivement, on a l'impression que c'est toutes les mêmes, sauf que dans une main, il n'y a pas de diversité, dans l'autre, il y en a beaucoup.
Oui, parce que la diversité n'est pas toujours visible. La diversité, ce n'est pas forcément toujours des couleurs et des tailles et des formes et des goûts. Par exemple, pour ceux dont je travaille, bah, les résistances aux maladies, vous pouvez avoir 50 variétés de riz qui se ressemblent. Ça fait de l'herbe verte avec un espèce de panicule et puis après, bah, ça fait des grains blancs qu'on mange. Et si c'est tous des japonicas tempérés, bah, ça va tout faire du riz rond pour faire des sushis. Et puis en fait, bah, y en a un qui est très sensible, un qui est très résistant, un autre qui est résistant mais autrement, un qui résiste mais pas aux mêmes maladies, puis un qui résiste à la sécheresse, puis l'autre il résiste au froid, et puis l'autre il est plutôt tropical, etc. etc., etc. Mais à la sortie, ça fait du riz.
Et ça ne se voit pas, cette diversité.
C'est une diversité qui ne se voit pas. Et la diversité, alors il y a toute cette diversité qui ne se voit pas, qui correspond à des caractéristiques de la plante, qui ne vont pas être des caractéristiques du produit final. Et puis après, il y a toute une diversité qui ne se voit pas parce qu'elle est complètement neutre, elle ne porte pas prise à la sélection. Bon, on va peut-être revenir aux bananes.
Revenons à ces bananes sauvages avec des gros grains et voilà. Puis clones.
Alors en fait, les bananes, elles ont été domestiquées. La domestication de la banane, c'est quelque chose qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années. J'ai du mal à être précis parce que, en fait, chaque fois qu'il y a des publications sur le sujet, ils se tapent un peu dessus à plusieurs milliers d'années d'écart. La date de la domestication des plantes, c'est une très grosse question et qui n'est pas résolue et qui, de toute façon, est différente pour chaque espèce considérée. La domestication de la banane, elle s'est faite dans un endroit très particulier qui sont les hautes terres de Papouasie où il y a des gens qui vivent depuis des millénaires, qui n'ont été découverts par les Occidentaux que dans les années 30 et qui ont inventé l'agriculture tout seuls dans leur coin. Rien que pour ça, ils sont admirables. Et ces gens-là ont domestiqué la banane, taro et la canne à sucre. Donc, en termes d'importance aujourd'hui, je veux bien comprendre que le taro, ici, on ne se rend pas compte, mais en tout cas, la banane et la canne à sucre, tout le monde réalise. Cette banane a été domestiquée à partir de plantes sauvages qui produisent des fruits qui ressemblent à des petites bananes et qui sont pleins de graines. Une graine de bananier, c'est comme du bois. Donc si vous mangiez une banane avec des graines, c'est comme si vous mangiez une banane avec dedans des cailloux. Et en plus, les graines de banane sont dispersées dans le fruit, c'est pas comme la pomme où les pépins sont au milieu. Donc c'est horrible à manger, hein. C'est vraiment, on n'a pas envie. Et donc la domestication de la banane s'est beaucoup faite sur en fait des critères de stérilité, c'est-à-dire d'incapacité de la plante à produire des graines. Et elle produit ce qu'on appelle des fruits parthénocarpiques, c'est-à-dire des fruits qui n'ont pas de graines, des fruits qui se forment en l'absence de graines. Pour la banane, est-ce que c'est nocif? Les fruits qui ont des graines, les plantes de bananes qui avaient en Papouasie dans les montagnes et qui faisaient des fruits avec des graines ont donné des descendants qui sont aujourd'hui dans les montagnes de Papouasie et qui font des fruits avec des graines. Les bananes qui font des fruits sans graines et qui sont agréables à manger ont conquis le monde.
De destin.
Voilà. Et ça, c'est vraiment la domestication. C'est-à-dire que oui, le caractère pour une plante de pas faire de graines, alors, c'est pas la fin du monde parce que contrairement à nous, la plante, elle peut se multiplier de façon végétative. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'elle a perdu sa sexualité qu'elle a perdu sa capacité à transmettre son génome. Et ensuite, elle ne l'a pas perdu totalement, c'est-à-dire qu'en fait, ces bananes stériles, surtout les vieilles variétés qui étaient cultivées là-bas, elles sont pas tout à fait stériles, et mettons qu'une fois sur mille, il y a un grain. Et la meilleure façon de conserver un génotype, c'est encore de le cloner. C'est-à-dire, alors cloner, c'est un grand mot qui fait peur, où on voit tout de suite des blouses blanches de l'inox et des UV. Alors qu'en fait, quand vous faites des boutures, vous faites du clonage. Hein. Quand vous plantez vos jonquilles, vous sortez vos bulbes de jonquilles, et puis vous les écartez les uns des autres, et au lieu d'avoir une jonquille, vous en avez 10, vous avez fait du clonage. Voilà. Et donc cette multiplication par clonage, elle existe pour beaucoup de plantes cultivées, comme le bananier, comme le pommier, beaucoup de plantes pérennes en général. C'est comme ça qu'on maintient ces variétés-là.
Lorsqu'on choisit de mettre en avant une caractéristique dans un organisme, lorsqu'on fait une sélection génétique, du coup on choisit de développer une caractéristique. Est-ce que c'est au détriment d'une autre ? Donc par exemple, si on va choisir une belle tomate bien ronde, est-ce qu'elle va perdre en goût ou est-ce qu'elle va perdre en odeur ? Est-ce qu'il y a un équilibre ?
Alors la réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est qu'on peut sélectionner pour tout en même temps, mais ça prend très longtemps. Et donc, en fait, dans la pratique, on va sélectionner pour une chose, et puis après pour une autre, et puis après pour une autre, parce que la sélection se fait sur un temps long, hein, même la sélection faite par des industriels, enfin, par des améliorateurs dans des boîtes semencières, un cycle de sélection, ça prend 10 ans. Donc, ça veut dire qu'à chaque cycle de sélection, en fait, la société a changé, et donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Si on prend, par exemple, des tomates, oui, on peut sélectionner d'abord pour faire des fruits qui sont bien rouges et bien jolis, et puis surtout des fruits qu'on veut vendre au supermarché. Et pour les vendre au supermarché, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont les cueillir, et puis on va les transporter, puis on va les mettre dans des cagettes, puis on va les sortir des cagettes, puis on va les mettre dans des étals, puis on va les sortir des étals, etc., etc., etc. Et il faut qu'à la fin, la tomate, elle soit bien rouge. Donc pour ça, il faut que votre tomate, elle soit très solide. Eh bien, il se trouve que la solidité de la tomate et son goût pas fameux, c'est un peu la même chose. Et que, par contraste, toutes les tomates qu'on appelle les variétés traditionnelles, c'est-à-dire toutes ces tomates qu'on trouve sur le marché, qui sont généralement très grosses et puis qui ont plein de couleurs différentes, elles sont excellentes. Moi, j'ai un potager avec des tomates, je fais pousser ça, hein, je ne fais pas pousser de la tomate grappe. Hein. Pourquoi ? Parce que dans mon potager, mes tomates excellentes, je les cueille, et puis je les coupe en tranches, et puis je les mange en salade. Et là, elles sont fabuleuses. Par contre, les mêmes tomates, vous les faites pousser dans une serre, et puis je recommence la même histoire où il y a quelqu'un qui la ramasse, puis qui la met dans une caisse, puis il y a beaucoup de caisses, et puis les caisses elles se retrouvent dans un camion, et puis le camion il est froid, et puis ça traverse la moitié de la France, et puis ça se retrouve sur un étal, etc., etc., à la fin ça fait de la bouillie. Voilà, et vous avez à l'autre extrémité, vous avez des tomates que vous ne verrez pas au supermarché, qu'on appelle des tomates d'industrie, qui sont des tomates qui sont faites pour faire de la sauce tomate, qui elles sont sélectionnées sur d'autres critères. Une tomate d'industrie, il faut qu'il y ait beaucoup de matière, il faut qu'il y ait beaucoup de sucre, il faut qu'il y ait beaucoup de couleur, et il faut qu'il y ait beaucoup de parfum. Et puis, il faut qu'elle soit très, très résistante, parce que là, c'est plus le supermarché et les doigts du cueilleur, c'est la machine, parce que la tomate, elle va être vendue à quelques centimes le kilo. Et donc, à partir de là, vous avez des tomates qui ont la texture d'une pomme, qui sont plus orange que rouge, et qui sont vraiment pas bonnes du tout. Par contre, une fois que vous faites de la sauce tomate avec, c'est la meilleure sauce tomate du monde, hein, et elle est meilleure que celle des tomates de mon jardin. Je vais le résumer en disant que oui, il y a un lien entre le mode de production et le contenu du fruit, et le contenu de ce que l'on consomme, que ce lien fait que on a intérêt à manger des choses très diverses et que ce lien est très complexe et que donc il est très difficile de savoir si ce que l'on consomme est mieux ou moins bien en fonction de son mode de production et que ça dépend. Que en moyenne les modes de production intensifs vont favoriser de l'eau et que les modes de production moins intensifs vont favoriser le reste qui est quand même plus nutritif. Mais ça, c'est une moyenne à l'intérieur de laquelle les variations sont multiples. Et il vaut mieux manger des légumes du supermarché que de manger des produits transformés de très très loin. Et après, si on ne fait que manger des légumes, peut-être que c'est mieux de manger des légumes produits en bio. Je ne suis pas expert. Je pense qu'en moyenne, oui, mais je n'en suis pas sûr.
Petite question de science-fiction pour conclure cette émission. Si nous échouons à vivre en harmonie avec notre environnement, une solution serait de changer d'environnement, repartir de zéro en quelque sorte. Cependant, la question de l'alimentation reste centrale. Dans un film comme Seul sur Mars, où le protagoniste est seul sur Mars, d'où le nom, il doit se débrouiller pour se nourrir. On le voit faire pousser des plantes dans sa station spatiale martienne. À votre avis, quelles semences de plantes seront choisies dans une telle situation ? En clair, pour vous, c'est quoi le fruit ou le légume à avoir dans sa poche pour aller dans l'espace ?
Alors en fait, il en faudrait plein. Il n'y a pas la panacée. S'il y avait une plante qui produisait quelque chose qui est le nutriment parfait, on n'aurait pas besoin de cultiver les autres. Donc si aujourd'hui on cultive certaines espèces, pas tant que ça, mais quand même un certain nombre, c'est parce qu'on a besoin de tout. La nourriture chez les humains, ça ne se limite pas à simplement satisfaire un certain nombre de besoins physiologiques. C'est un mélange de physiologie, de psychologie, de plaisir, voilà. Et en fait, ça c'est quelque chose que je dis, mais que je ne suis pas le seul à dire. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des projets de la NASA pour faire pousser des carottes dans l'espace. Une fois de plus, la carotte, ce n'est pas pour se nourrir, c'est le premier luxe. C'est quand on en a marre des patates. Et quand on en a marre de la nourriture lyophilisée, et ben aujourd'hui, à l'ISS, les gens, ils font pousser des petites salades, des choses comme ça, parce que juste manger des choses qui satisfont des besoins physiologiques, ça ne suffit pas. Si un jour, on veut aller dans d'autres mondes, nous sommes une composante de la biosphère, et l'ensemble de la biosphère interagit avec nous, et nous n'existons qu'au sein de cette biosphère. Pour pouvoir nous répandre vers d'autres mondes et pour pouvoir répandre la vie dans d'autres mondes, nous ne pourrons pas nous répandre tout seuls, nous ne pourrons que répandre une biosphère. Ça peut être une biosphère simplifiée, ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre et que le moindre génotype d'arbre bizarre qui pousse au fin fond de l'Amazonie devra venir avec nous. Mais il faudra des navets, des carottes, des bananes, des mangues, des mûres, et puis du blé, du riz, du maïs et des patates.
J'aime beaucoup cette conclusion. Merci beaucoup Romain Verrouillet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à Romain Verrouillet d'avoir été notre invité. Merci également à Aurore et à Rémi pour leur chronique. Cette émission a été préparée et animée par Crystal Bontemps et Sophie Potvin. L'émission est disponible bien sûr sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit comme d'habitude à très vite pour une nouvelle émission.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique Faire un don. Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Switching difference to a liquid narrative.
Radio G à RNT à Angers.
Radio G, un point c'est tout.